Alors, on m'a passé avec la parole de Dieu. Je suis heureux de pouvoir le faire avec vous. On a un texte qui est encourageant ce matin sur la prière. Alors, voilà. Et j'espère que vous serez encouragés comme moi, j'ai été aussi encouragé par ce passage. On est dans le livre des Actes, au chapitre 4, c'était la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la guérison publique d'un homme infirme depuis sa naissance et il était là à la porte du temple de Jérusalem. On l'a amené chaque jour. Et la porte principale, la belle porte, celle par où tout le monde voulait passer pour entrer au temple. Et donc voilà que Pierre et Jean passent et qu'ils guérissent cet homme au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et s'ensuit l'occasion pour Pierre et pour Jean d'annoncer l'évangile, de prêcher à tous ces gens qui venaient en foule voir cette personne qui était guérie. Et là, c'est la suite. C'est que les responsables religieux du temple et de Jérusalem et de toute la Judée, de tout le peuple d'Israël, n'étaient pas contents du tout que le nom de Jésus soit annoncé comme étant ressuscité, et ils les ont mis en prison, et après ils les ont finalement, comme ils ne pouvaient pas faire grand chose à cause de cette guérison qui avait eu lieu, ils les ont relâchés en leur interdisant formellement de annoncer, de parler du nom de Jésus. Donc on en était là dans notre récit. C'était le livre des Actes, chapitre 4, 23 à 31. Si vous avez déjà trouvé ce passage, mettez le doigt dessus parce qu'on va lire maintenant ensemble, pour introduire le message, deux autres passages dans les psaumes, le psaume 146. Le psaume 146, c'est un psaume qui était chanté dans le temple, que, vous savez, les chants, au bout d'un moment, on les connaît par cœur. Et les Israélites devaient connaître tous ces psaumes par cœur. Et voici ce que dit le psaume 146. Je pense qu'on leur disait une phrase du psaume, et puis ça y est, tout le chant leur revenait à mémoire. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, ils ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux, celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir à l'Éternel, son Dieu. Verset 6. Il a fait les cieux et la terre, la mer, et tous qui s'y trouvent, il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Et un autre passage dans le prophète Ézéchiel. Alors Ézéchiel, c'est au moment où le temple de Jérusalem a été mis en déportation. Donc c'est bien après David. Donc, Ézéchiel 34. Donc, c'est après le psaume, les proverbes. Il y a Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Et là, on va lire juste on va lire tout le chapitre 34. Mais la lecture est longue. Alors, j'ai prévu de lire du verset 20 au verset 27. Juste un petit extrait de ce que Dieu avait dit à Ézéchiel concernant les dirigeants de Judas, ceux qui l'avaient chargé d'être les pasteurs de son troupeau. Verset 20, Ézéchiel 34, 20. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis, afin qu'elle ne soit plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. J'établirai sur elles un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Je ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'amènerai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit, la terre donnera ses produits. Ils seront en sécurité dans leur pays et ils sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leurs joues, que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissent. Jusque-là. Et donc je vous invite, après cette lecture d'introduction, à retrouver Actes. Chapitre 4, verset 23. Je vais l'afficher à l'écran. Je lirai dans la version second 21. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que le chef des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous avez remarqué notre texte, j'ai nommé le titre de ce message, une prière exaucée, parce que là nous voyons l'exaucement de la prière de ces disciples de Jésus qui se sont mis ensemble, qui ont prié, et Dieu a répondu. Il voulait annoncer la parole avec assurance, Et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Alors on va voir tout ça. D'abord, nous plonger dans cette prière exaucée à Jérusalem il y a 2000 ans. Qu'est-ce que cette prière peut nous apprendre ce matin sur la façon dont on peut prier? C'est un exemple. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors le verset 24. Après avoir écouté donc le compte rendu de Pierre et de Jean, des menaces qu'ils avaient reçues, leur interdiction qui avait été faite d'annoncer Jésus, après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu. Ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître absolu, Maître ». Alors, qui est-ce qui prie donc? C'est l'Église. C'est les personnes qui ont foi dans le nom de Jésus-Christ ressuscité, des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et des personnes qui sont ensemble et qui vont prier ensemble face à ce qu'ils ont entendu, à ce compte rendu. Ils ont dit, on va prier notre Dieu, notre Maître. Jésus avait dit, je vous dis encore, Matthieu 18, 19, si deux d'entre vous s'accordent sur terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et donc, ensemble, ils avaient fait une prière à Dieu. Verset 24. À qui s'adresse-t-il? Au Maître. Tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce mot maître, c'est pas le mot habituel qui est traduit par Seigneur. Et c'est le mot, habituellement c'est le mot kurios. Et là c'est un mot qu'on va comprendre, puisqu'en grec c'est le mot despotes. C'est la façon dont les esclaves s'adressaient à leur maître, qui était leur propriétaire. Du temps au premier siècle, quand il y avait, vous savez, l'esclavage qui était en place. Et là, c'est ce mot-là avec lequel les disciples s'adressent à Dieu dans leur prière. L'Église prie le Dieu auquel ils sont complètement soumis. Et il se présente à Dieu comme étant complètement soumis à sa volonté. Tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est ainsi qu'on retrouve cette même expression en Exode chapitre 20, quand ils vont recevoir les 10 commandements. Et on le trouve également dans le psaume 146, dont on a fait la lecture en introduction, où on retrouve le Dieu qui fait droit aux étrangers, qui délivre les captifs et qui renverse la voie des méchants. Les mots sont choisis. Bien sûr, pour nous, cela évoque également la façon dont Jésus a enseigné, a prié à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qui est-ce qui prie? L'Église. À qui s'adresse? À Dieu. Cette prière à Dieu. Ensuite, versets 25 à 28, la suite de la prière. C'est toi, Maître, qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur, contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Les disciples rapproche la situation dans laquelle ils sont, dans laquelle ils se trouvent, d'une situation similaire, ou du moins dans la Bible, qu'ils connaissent et qui est décrit ici. Et il cite le psaume 2. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Sanhédrin a condamné à mort Jésus de Nazareth parce qu'il avait déclaré son identité de fils de Dieu. Alors que normalement il était là pour rendre la justice dans la région, le roi Hérode qui était normalement qui administrait la région de Galilée dont dépendait Jésus, Hérode s'est moqué de Jésus et s'est moqué de rendre la justice. Et ensuite, Jésus a comparé devant Ponce Pilate qui lui représentait l'autorité de Rome sur la région. Et on sait ce qu'a fait Ponce Pilate. Il a été la main qui a exécuté ce que le Sanhédrin avait décidé, à savoir Jésus-Christ devait être crucifié. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont liés dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël. Voici ce que dit le psaume 2. Qu'ils ont cité ici. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Verset 6, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux ceux qui se confient à lui. Les disciples voient, me semble-t-il, clairement un fossé qui est en train de se creuser entre les autorités représentantes de la nation juive et les disciples de Jésus-Christ. Un creuset qui va en s'écartant, puisque là, dans le psaume, à travers ce psaume, ils voient les responsables religieux de la nation juive se mettre du côté des nations, contre, loin de l'Éternel, contre Jésus-Christ. Et le fossé se creuse encore après les prédications de Pierre, après la façon dont ils ont été mis en prison. Et là, ils savent, maintenant, les temps vont changer. Mais ils ont la foi dans la souveraineté de Dieu sur toute cette situation. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Dieu est au contrôle de cette situation qui va tourner, qui tourne, qui va tourner au vinaigre. Ils n'ont pas considéré les choses qu'ils avaient subies à vue humaine. À vue humaine, qu'est-ce qu'on fait? On nous interdit de choses. Ah, c'est pas juste. On va faire ceci, on va faire cela. On va faire une chose, on va faire une autre. On va faire une grève, on va faire une multitude de choses. Eux, ils considèrent ce qu'ils subissent au vu de la parole de Dieu. Comment la situation qu'ils traversent et se comprend à la vue de la parole de Dieu. Quelle est la vision spirituelle qu'on doit avoir d'une situation? Et donc leur requête va être complètement pertinente parce qu'elle s'inscrit dans le plan de Dieu, dans ce plan de Dieu souverain qui se déroule. Ils voient clairement où ils en sont et ils voient ce qui se passe. Et maintenant, ils savent ce qui doit être demandé. Versets 29 et 30, la demande maintenant. Maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Les disciples prennent Dieu à témoin par rapport à sa parole. Regarde les menaces. Regarde ce qu'ils font. Regarde ce qui est écrit dans le psaume 2. Et leur demande est précise. Ils font une demande précise. Pouvoir annoncer l'évangile avec assurance. Ce mot assurance est traduit différemment ailleurs dans la Bible. Il est traduit librement, pouvoir annoncer la parole de Dieu librement, ouvertement, franchement, avec confiance, avec ardeur, avec persuasion. Voilà leur demande précise. Donc, de continuer. C'est conforme à la volonté de Dieu. Hein? Vous vous souvenez ce que leur avait dit Jésus quand, avant de monter au ciel, voici, vous recevrez une puissance, vous recevrez le Saint-Esprit survenant qui viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et leur demande de pouvoir annoncer la parole de Dieu avec assurance est dans la volonté de Dieu. Une demande qui est dans la volonté de Dieu, qui est dans le plan de Dieu, qui correspond à ce que Dieu veut faire. Il demande aussi, vous l'avez remarqué, que cette assurance s'accompagne de miracles et de prodiges. C'est en effet la guérison de l'infirme qui avait créé le buzz là, à ce moment-là. Et quand il y a eu cette guérison d'infirme, ça avait ramené immédiatement un grand nombre de personnes. Et là, Pierre et Jean ont dit, là c'est l'occasion d'annoncer l'évangile de Dieu. Cette guérison avait donné un auditoire, ouvert une fenêtre médiatique, ou je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui. En tout cas, ils ont eu l'occasion de le faire et des milliers de personnes ont été ajoutées encore à l'église cette fois-là. Et c'est cette même guérison qui les avait protégés par la suite, parce que les chefs qui sont intervenus en les voyant annoncer le nom de Jésus, ah ben, ils ont été comme paralysés par le fait qu'il y avait eu une guérison qui ne pouvait être que l'œuvre de Dieu. Et donc, ils n'ont pu rien faire. Ils ont été obligés de les relâcher. Et donc, ce miracle qui s'était produit, ces prodiges, avaient eu ce double effet. Et d'amener des auditeurs et en même temps de les protéger de la vengeance, on pourrait dire, des responsables du peuple, des responsables juifs du temple et du peuple. Verset 30, ensuite, déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Nous avons lu que ce serviteur, l'évocation du serviteur de Jésus évoquait Moïse, qui était qualifié de serviteur de Dieu et que Moïse avait désigné un prophète qui devait lui succéder, qui devait être un intermédiaire, un nouvel intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et c'est ce que Jésus, qui s'est présenté comme un intermédiaire beaucoup plus grand et beaucoup plus qualifié, un intermédiaire entre Dieu et les hommes, car il était fils de Dieu. Il était lui-même fils de Dieu. Nous avons également vu que le serviteur de l'Éternel était aussi le serviteur souffrant, celui qu'avait annoncé le prophète Ésaïe, le serviteur souffrant, qui allait expier les péchés et porter le salut de Dieu jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voyons ici, avec le rapprochement avec David, le serviteur David, David aussi est qualifié de serviteur de l'Éternel. On l'a vu au psaume 2, Jésus est le Fils de Dieu, c'est le roi absolu sur l'univers entier. Et dans l'introduction, Jésus est également le nouveau berger, le nouveau David, annoncé en Ézéchiel 34, que nous avons lu en introduction. Le nom de Jésus est le plus grand nom que l'on puisse trouver, que l'on puisse nommer dans l'univers entier. Le seul nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Le seul sauveur, Jésus-Christ, le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Le nom qui est grand, qui est absolument le plus grand des noms qui puissent être prononcés par des bouches d'hommes. Acte 4, chapitre 12. Et suit l'exaucement du verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils se tenaient en rassemblant trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La réponse de leur maître, du Créateur de toutes choses, est immédiate. Ils sont remplis du Saint-Esprit, de façon à pouvoir annoncer franchement, clairement, en toute liberté, l'évangile de Jésus-Christ. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit une nouvelle fois, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais ils ont été, à ce moment-là, tous remplis du Saint-Esprit. Et cela s'est traduit par cette capacité d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Quand Pierre avait pris la parole devant les chefs religieux, hein, juste les versets d'avant de ce chapitre, je lis verset 4, 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, etc., il leur annonce, et au verset 13, lorsque les gens voient l'assurance de Pierre et de Jean, les chefs sont étonnés. Ils sont étonnés. C'est cette même assurance qu'ils avaient quand ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et pour avoir l'assurance, ils devaient être remplis du Saint-Esprit. Et Dieu les exauce pour les remplir du Saint-Esprit. Et on a un tremblement de la maison, je pense, qui annonce aussi que leur demande de pouvoir faire des prodiges et des miracles au nom de Jésus leur est accordé également. Et on verra ça se confirmer dans la suite du texte. Une prière exaucée il y a 2000 ans à Jérusalem. Une prière exaucée aujourd'hui. Ce n'est pas un texte normatif, c'est un récit, c'est une narration. Mais est-ce qu'il peut nous apprendre à comment faire pour prier, pour avoir l'exaucement des prières? Qu'est-ce que nous pouvons nous saisir dans ce texte pour nous-mêmes, pour faire des progrès dans notre vie de prière? Je vous propose de relever les 5 points qu'on a vus. Prier d'un commun accord. La prière personnelle est une très bonne chose. Et c'est encouragé par le Seigneur. Et il a enseigné de s'isoler pour prier, pour parler seul à seul avec Dieu le Père. Mais la prière communautaire n'en est pas moins indispensable, et on le voit ici. Prier d'un commun accord. Prier Dieu dans une attitude de complète soumission. Et ça, c'est plus difficile. On est souvent dans des conflits, on peut être facilement dans des conflits d'intérêts avec Dieu, on désire quelque chose que Dieu ne désire pas. Et là, c'est un petit peu faussé. Comme si on voulait imposer à Dieu notre vision, comme si on avait des arguments à lui faire valoir. On considère que forcément Dieu voit les choses comme nous. Ça nous semble tellement évident, Dieu ne peut voir les choses que comme nous. Et forcément là, il peut y avoir des blocages. Parce que on ne demande pas ce qu'il convient. On n'est pas dans une attitude de complète soumission à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut demander ? Avoir une vision biblique de la situation, des circonstances pour lesquelles on veut s'adresser à Dieu. Et c'est pas facile, hein. C'est pas facile de voir les choses comme Dieu voit. Mais ils connaissaient la Bible, ils se sont appuyés sur la Bible et nous aussi dans nos requêtes. Si on s'appuie sur la parole de Dieu, si on s'appuie sur les promesses de Dieu, là, je pense qu'on est dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions pour porter nos requêtes à Dieu. On a également cette question de porter des requêtes précises. Ils ont été précis dans ce qu'ils ont demandé. Ils voulaient une chose, avoir de l'assurance. C'est ça qu'ils jugeaient utile pour remplir leur mission. Et Dieu était complètement disposé à leur donner ce qu'ils avaient demandé. Des fois, dans nos prières, on est un petit peu vague, un petit peu général. Il y a des fois, c'est nécessaire de l'être quand on prie, comme nous l'a enseigné Jésus, que ton règne vienne. Quand on prie pour l'avancée de l'évangile, quand on prie pour, on peut prier pour la paix à Jérusalem en ce moment, pour le retour du Seigneur. Ce sont des choses justes. Ce sont des choses que le Seigneur va répondre en son temps. On sait qu'on n'aura pas d'exaucement à l'instant même. Mais il y a des prières où l'on peut être précis. Les prières qui sont bien ciblées dans nos circonstances, où on est encouragé, je pense, à formuler précisément ce que l'on souhaite. Et formuler précisément, ça va nous aider à réfléchir sur le plan de Dieu. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut ? Est-ce que je suis dans sa volonté ? Et enfin, ce dernier point, prier au nom de Jésus-Christ. Le nom de prier au nom de Jésus-Christ, ça sous-entend bien sûr avoir la communion avec Jésus-Christ. Il a souffert pour la croix, pour nos péchés. Comment nous adresser à lui si on a en même temps du péché, s'il y a des péchés qu'on garde, qu'on entretient, qu'on ne porte pas devant lui pour être premièrement pardonné? Comment peut-on prier au nom de Jésus-Christ en situation de péché? Prier au nom de Jésus-Christ demande de passer par l'examen. Où est-ce que j'en suis moi avec le Seigneur avant de venir lui demander quelque chose en son nom? Quel nom, quelle dimension de Jésus on s'appuie? Est-ce que c'est le roi? Est-ce que c'est le serviteur souffrant? Est-ce que c'est l'intermédiaire? Prier au nom de Jésus-Christ, pas comme quelque chose qui est simplement formulé comme ça, mais d'avoir en mémoire tout ce que le nom de Jésus-Christ représente. Je voudrais dire un mot par rapport à la demande de miracles et de prodiges. Au premier siècle, les prodiges et les miracles qui ont été réalisés par les apôtres attestaient la résurrection de Jésus-Christ. Cela attestait que Jésus-Christ était vraiment ressuscité à cause des miracles qui étaient faits en son nom. Et cela attestait l'autorité qu'avaient reçue les apôtres de la part de Jésus-Christ. Maintenant, on est au 21e siècle, on a le Nouveau Testament qui est écrit et qui lui fait autorité. Les besoins ne sont plus les mêmes, me semble-t-il, en ce qui concerne les prodiges, au moins pour notre situation ici à Figeac. La puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. Ce que redoutaient les sacrificateurs c'était pas les miracles, les scribes et les chefs religieux, c'était pas les miracles, ce qu'ils redoutaient, c'était que Pierre ouvre la bouche et parle de Jésus-Christ. C'était ça qui n'allait pas, c'était ça. Et la persécution, elle ne vient pas du fait qu'il y ait des guérisons, elle vient du fait qu'il y ait proclamation de l'évangile. La puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. Si aujourd'hui, il y avait des miracles, moi personnellement, et des prodiges, moi personnellement, j'aurais du mal à gérer ça. J'aurais du mal à gérer ça, parce que je sais qu'il y a plein ici, à Figeac, grande proportion d'habitants qui ont une parfaite confiance dans les guérisseurs. Ils savent, je vais chez celui-là, je vais être guéri de ça, je vais être chez celui-là, je vais être guéri de ça. Et là, Jésus-Christ, on ne peut pas le mettre au même niveau, on ne peut pas comparer avec ça. Et c'est pas sur ce terrain-là que je me sentirai, moi, personnellement, à l'aise pour annoncer l'évangile. Mais par contre, avoir la liberté de parole, pouvoir m'exprimer de façon d'être compris par les personnes, les rejoindre dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, faire écho à aux aspirations de leur cœur, parler le message de l'évangile, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Beaucoup de valeur. Donc, je dirais que pour notre situation ici, moi personnellement, je ne vois pas les miracles et les prodiges comme étant utiles. C'est indispensable à ce moment-là, au premier siècle. Pour terminer, on a vu la prière exaucée du premier siècle. On a vu la prière, qu'est-ce qui est, on peut s'approprier, saisir de cette prière pour nous aussi avoir des prières auxquelles Dieu va répondre favorablement. Je voudrais en venir sur la prière qui est toujours exaucée. Il y a une prière que Dieu exauce toujours. Savez-vous laquelle c'est? Une prière que Dieu exauce toujours. Comme on dit, ça marche à tous les coups. Hein? C'est la prière de repentance. C'est la prière de repentance. C'est la prière de conversion. Ça marche à tous les coups. Dieu accueille toujours favorablement la prière de repentance. Dieu accueille toujours favorablement ceux qui s'approchent de lui par son Fils Jésus-Christ. Voici ce que nous avons lu à travers le livre des Actes. Je vais relire ces passages. Actes 2, chapitre 36 à 39. Pierre qui s'adresse au peuple. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Et Pierre dit, « Changez d'attitude, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et il ajoute, « La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. » Un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant, sauvez-vous de cette génération pervertie. La promesse est pour tout le monde. Dieu accueille favorablement la repentance et la conversion. Acte 3, chapitre 17 et 18. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez d'attitude, repentez-vous, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Conversion, repentance, conversion, pardon des péchés. Ça marche ensemble, la prière de repentance est toujours entendu par Dieu. Il ne rejette pas un cœur contrit. Il ne rejette jamais un cœur brisé devant lui. Jamais. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. La prière qui est toujours, toujours, toujours exaucée. Prière que l'on peut faire maintenant, je vous propose. Prière que l'on peut faire maintenant. Et si l'un de nous peut prier, veut prier, pourra ajouter une prière et on terminera par le chant. Tu es venu jusqu'à nous, roi serviteur.